Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alors aujourd'hui, on est béni, on a avec nous un invité spécial de la France, Jérémy Soudril, qui est le cofondateur du ministère enseigne-moi.com, et je crois qu'on va avoir du bon temps ce matin dans la présence de Dieu, lorsqu'il va nous présenter le thème « La puissance d'une vision » et comment, quand on saisit une vision par la foi, ça peut changer nos vies et changer le cours de toute notre vie finalement, parce que quand on saisit la vision du ciel pour notre vie, on la reçoit dans nos cœurs et on est béni et on va de l'avant. Alors ce matin, j'aimerais ça inviter Jérémy à s'approcher. On peut l'accueillir chaleureusement ce matin. Bienvenue Jérémy, que Dieu te bénisse.
Voilà, bonjour à tous. Je pensais venir au Canada, mais apparemment on m'a dit qu'ici c'était le Québec. Hein. Il paraît que c'est pas la même chose. En tout cas, donc je vais vous présenter un peu la vision d'enseignement.com, ce qu'on a fait, là où on va, d'où on vient, et aussi vous partager un message donc sur la vision. Seigneur, merci parce que ta parole est puissante, elle est extraordinaire, c'est une épée, Seigneur, qui transperce les choses dans nos vies, qui nous dirige aussi. Merci parce que ta parole, Seigneur, nous reprend, nous exhorte, nous console. Ta parole est vraiment extraordinaire, puissante. Et ce matin, Père, nous voulons te donner toute la gloire. Je veux te donner toute la gloire au travers de cet enseignement. Au travers de ce que tu as fait dans ma vie et ce que tu veux faire dans la vie de chacun. Sois glorifié. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous t'accueillons réellement. Viens, ouvre-nous les yeux, afin que nous puissions voir exactement ce que tu veux faire dans notre vie. Nous te bénissons, Seigneur. Sois glorifié. Alléluia. Amen. Voilà, donc je vais vous passer un petit PowerPoint avec différentes choses pour me présenter un peu. Voilà. Donc d'abord me présenter un peu. Donc effectivement, je m'appelle Jérémy Soudril. J'ai 26 ans. J'ai connu le Seigneur il y a quelques années, à travers une rencontre avec lui qui a été assez puissante. Je suis né dans une famille non chrétienne. Ma mère faisait des cours de voyance et dilapidait tout l'argent du foyer pour ça. Et donc le foyer commençait à être vraiment brisé. Et elle a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et au fur et à mesure du temps, elle a donc été sauvée. Mon père a été sauvé. Ma sœur a été sauvée. Mon frère a été sauvé. J'ai été sauvé. Et puis plus tard, mon beau-frère a été sauvé, ma belle-sœur a été sauvée, celle qui allait devenir ma femme a été sauvée, le père de ma femme a été sauvé, et la femme du père de ma femme a été sauvée. La Bible dit « Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille », et on doit avoir une vision pour le salut de notre famille. Christ est assez puissant pour transformer n'importe quel cœur, et on doit lui faire confiance. Donc je m'occupe actuellement d'enseignement.com, je suis un peu la personne à tout faire, donc c'est moi qui ajoute les enseignements, je suis en contact avec les différents ministères, au travers du site je réponds aussi à pas mal d'emails, et je suis aussi directeur de l'Institut Public Enseigne-moi que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc ça, c'est ma famille, vous avez donc sur votre gauche ma fille, Eden, elle va avoir 4 ans le mois prochain, elle est magnifique. Au milieu donc ma femme, donc ça c'est mon église. Je suis dans une église à côté de Versailles, à 30 km à peu près de Paris, pour ceux qui connaissent une ville qui s'appelle Saint-Cyr-l'École. Et donc j'ai un nouveau pasteur qui s'appelle Patana Agboulom. Et donc aujourd'hui, alors je vais vous parler de différentes choses, enseignemoi.com d'une part, et aussi un message que j'ai précisé être notre responsabilité dans les plans de Dieu, dans la vision de Dieu. On va lire ensemble un passage dans Jean que vous connaissez bien, au chapitre 10, comme introduction. Jean 10, verset 9. Jésus a dit, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur, lui, ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus nous a parlé d'une vie en abondance. Et dans nos chants, souvent, on dit à Jésus, soit ma vision, Jésus, soit ceci, soit cela. Mais on va voir ce matin que Dieu nous demande à nous de bouger, à nous de faire quelque chose. Beaucoup de chrétiens ont pensé qu'à leur nouvelle naissance, ils entraient au paradis. Mais à notre nouvelle naissance, on n'entre pas au paradis. On entre par la porte, effectivement, qui est Jésus. Et Jésus nous a dit, vous entrerez par moi, puis vous sortirez. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui oublient de sortir à nouveau. Dans le monde. Ils sont dans leur monde chrétien, dans leurs petites idées, dans leur petite façon de voir les choses et de la vie chrétienne, et ils n'entrent pas dans le pâturage que Dieu a promis. Jésus a dit que dans ce pâturage, il y avait la vie et la vie en abondance. Ils étaient là, dans le désert, et Dieu leur avait parlé d'un pays promis. Et Dieu nous a parlé, à nous chrétiens, d'un pays promis. Nous avons quelque chose qui nous a été promis, un héritage qui se trouve en Christ. Et ça parle de pâturage. Dans le pâturage, il y a la bénédiction. Dans le pâturage, il y a ton conjoint. Dans le pâturage, il y a tout ce dont tu as besoin pour réussir. Dans ce pâturage, il y a la joie. Dans ce pâturage, il y a les finances. Il y a tout ce dont tu as besoin pour réussir. Malheureusement, on s'aperçoit que la majorité des chrétiens ne sont pas épanouis. Pourtant, Jésus nous a promis une vie épanouie. Je ne sais pas si vous êtes épanoui, mais Dieu veut vous donner une vision, afin que vous soyez réellement épanoui en tant qu'enfant de Dieu. Le problème, ce n'est pas des problèmes d'argent, ce n'est pas des problèmes de couple, c'est un problème de vision. Voilà pourquoi les gens ne sont pas épanouis, parce qu'ils manquent de vision. Ils sont aveugles, alors ils ne peuvent pas être épanouis. Quand on est dans le noir, on ne peut pas réellement être épanoui. On a besoin d'une vision. On a besoin de quelque chose qui va nous motiver. Nous avons été créés en trois dimensions, vous savez, corps, âme et esprit. Malheureusement, on s'occupe constamment de notre corps et de notre âme, mais on oublie notre esprit. Pourtant, à l'intérieur de nous, au plus profond de nous-mêmes, nous avons été créés pour enfanter une vision, pour enfanter des visions, pour construire quelque chose de surnaturel dans ce monde. Le diable ne passe pas sa vie à vous chercher des histoires. Il est dit que le diable vient pour voler, tuer et détruire. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont constamment les yeux fixés vers le diable. Mais on doit avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ comme on va le voir. Alors quand on parle de vision, parce que c'est un message qui s'étend partout dans le monde francophone actuellement, on parle de vision, on prêche sur la vision. Sachez que Jésus n'a pas suivi qu'une vision, mais il suivait des gens, il voulait bénir des gens. Donc oui, effectivement, nous marchons dans une vision, mais tout ça c'est pour des gens. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'à la vision, ils oublient d'aimer les autres. Ils oublient d'aimer les chrétiens. Non, Jésus nous a demandé d'avoir une vision pour les autres. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, a dit Jésus. On va lire dans Hébreux 12, au verset 1. La Bible dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Dieu nous a proposé une épreuve. Littéralement, ça nous parle d'une compétition, d'un combat. Le combat de la foi, ce n'est pas de combattre le diable. Le combat de la foi, c'est de réussir dans notre vision. Et il est dit « nous donc aussi ». Là, l'auteur nous parle de différentes personnes qui avaient une vision. Moïse, Joseph, cette prostituée, Isaac, avaient tous une vision. Mais il dit « nous donc aussi ». Donc, tu as une responsabilité. C'est bien de regarder tout ce que les hommes de Dieu ont fait dans la Bible, mais tu as ta responsabilité. Tu dois courir une course que personne ne courra pour toi. Tu dois marcher dans une vision et réussir. Donc si tu n'as pas de vision, tu dois la chercher. Dieu nous demande de la chercher réellement. Il est dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons. Ça nous parle d'une course. Tu dois être en mouvement. Tu ne dois pas être arrêté, mais tu dois être en mouvement. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie, ou en vue de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. En vue de la joie qui lui était proposée. Jésus avait une vision. Et parce qu'il avait une vision, il a pu subir des choses terribles. Terribles. Et avoir une vision dans votre vie vous aidera à surmonter toutes les difficultés qui viennent dans votre vie. La Bible dit, Jésus voyant que tout était accompli, dit, j'ai soif. Jésus voyait. Jésus était un visionnaire. Il est dit, Jésus voyant la foule, fut ému de compassion. Avoir une vision te donnera l'onction pour réussir ce que les autres ne peuvent pas réussir. Tu dois avoir une vision. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. En combattant contre le péché. C'est combattre contre le fait de ne pas avoir de vision. Le péché, c'est manquer le but, manquer la vision que Dieu avait pour vous. Donc, tu dois combattre le fait de n'être actuellement dans aucune vision. Et tu dois marcher dans une vision qui est puissante, une vision que Dieu veut. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, que Dieu a un plan et des projets pour notre vie. Des plans et des projets de bonheur, non pas de malheur, afin de nous donner non seulement une espérance, parce que l'espérance, c'est toujours futur, mais un avenir dès aujourd'hui, dans cette vie présente. Les chrétiens pensent que c'est le ciel seulement, mais ce n'est pas le ciel seulement, c'est aujourd'hui. Mon héritage et mon avenir se jouent aujourd'hui. Ce que vous posez aujourd'hui aura un résultat plus tard, dans votre vie personnelle. Donc la grande majorité des chrétiens, j'ai vu des chrétiens passer 10 ans dans leur vie, prier chaque mardi soir après mardi soir, réunion de prière après réunion de prière, sans ne jamais rien faire pour le Seigneur. Ils étaient là comme devant un mur, ne réalisant pas qu'il y avait la porte et Jésus-Christ à côté, priant pour que ce mur s'enlève, pour que ce mur se détruise. La difficulté qu'ils ont dans leur vie, sans comprendre qu'il y a une porte et un pâturage qui leur est promis. Ce n'est pas biblique de ne pas avoir de vision et de passer sa vie sans avoir de vision. Tu peux lire les meilleurs livres chrétiens, tu peux même lire ta Bible et tu peux même prier. Tu peux rencontrer les meilleurs hommes de Dieu qui existent. Dans cette vie, ce n'est pas comme ça que tu trouveras la volonté de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas forcément à cause de ça que tu vas réussir. Non, pour réussir déjà, il nous faut chercher. Dieu nous a dit qu'il avait un plan, mais il nous demande aussi de le chercher. Il y a un plan quelque part. Il y a le film de ta vie qui a déjà été tourné. Et ce film, Dieu l'a déjà tourné. Les choses ont déjà été écrites. La Bible dit que la terre attend avec un ardent désir ta révélation. La révélation des fils de Dieu. Donc la terre attend ta révélation. Les anges sont là en train de regarder comme cette télévision. Et c'est toi qui tournes le film. Ils savent exactement par où tu dois passer. Et parfois tu es là et tu dois prendre un choix. Et ils espèrent que tu vas prendre le bon choix. Ils espèrent que tu vas prendre la bonne route, le bon chemin. Mais c'est toi qui le feras, ce ne sera pas eux. Donc on a des choix à faire. La Bible dit que nous sommes donc en trois dimensions. Il y a en nous un homme qui est charnel et un homme qui est spirituel. Malheureusement, la plupart des gens marchent toute cette vie dans leur être charnel, nourrissant leur être et leur désir charnel. Donc ils vont vivre pour avoir une maison, être propriétaire, pour acheter une voiture et peut-être pour laisser un héritage à leurs enfants. Si c'est ça votre vision, excusez-moi, mais c'est lamentable. On a un Dieu beaucoup plus grand que ça. Quand je réalise que des gens passent 30 ans, 40 ans à payer une maison, un tas de briques, ou ici, il y a beaucoup de maisons en bois, du bois, du chaume, du foin, il y a beaucoup plus que ça. On doit créer quelque chose. On doit amener quelque chose dans ce monde qui, à notre mort, continuera à exister. On ira tous un jour dans le trou, et on n'y amènera rien. Et par contre, on peut laisser quelque chose. Non seulement à nos enfants, 1, 2, 3 enfants, mais à 10 000 000 de personnes. Si vous êtes intelligent, vous pouvez avoir un impact sur des milliers de personnes autour de vous. Il vous faut de l'intelligence divine. Il vous faut chercher Dieu et ce que Dieu veut pour vous. Jésus a dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice. Et toutes les choses dont vous avez besoin vous seront données. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être dans un objectif qui est divin. Non pas seulement nourrir notre chair, mais nous devons avoir un travail surnaturel, spirituel. On s'occupe chaque jour de gagner de l'argent pour donner à manger à nous-mêmes et à nos enfants, et les vêtir et les loger. Mais on oublie de nourrir notre être spirituel et de nourrir spirituellement les gens, de se nourrir spirituellement et de donner spirituellement à manger à tous ceux qui nous entourent. C'est bien, c'est bon de vouloir devenir propriétaire, mais il y a beaucoup plus. Dieu a un plan spécial pour chaque être humain. Donc on va voir comment a commencé Enseigne-moi. Enseigne-moi, ça commence avec un jeune homme de 19 ans. Il s'appelle Michael Lebeau, on habitait en Bretagne à l'époque, donc on était jeune, je suis encore jeune, gloire à Dieu, et je le resterai. Et il faisait donc des études d'informatique, un DUT d'informatique, et c'était un jeune homme qui était consacré, un jeune homme qui cherchait Dieu. Une vision viendra dans un cœur qui cherche Dieu. La vision vient quand vous avez la vue pour chercher Dieu. Et donc, le Seigneur lui a dit un jour d'arrêter ses études, et je sais qu'il y a pas mal de chrétiens qui disent « Le Seigneur m'a dit d'arrêter les études, mais finalement ils se retrouvent sans rien ». Et j'en connais qui sont parfois dépressifs au bout de 15 ans, parce que apparemment Dieu leur avait dit qu'il les appelait au ministère. Donc il y a vraiment des temps, il y a des moments. Moi, personnellement, je faisais des études donc de sport, et sachant que Dieu m'avait appelé au ministère, je me suis dit, si je fais ces 5 ans et que j'ai mon diplôme, donc je deviendrai prof de sport, et Dieu va m'appeler au ministère. Donc, entre guillemets, ça n'aura servi à rien. Effectivement, les études, c'est bien. Et d'ailleurs, j'encourage chaque personne à suivre les études jusqu'au bout, même ceux qui sont appelés au ministère. Mais, j'ai fait le choix de revenir dans mon église, qui était dans une autre ville, et de m'investir totalement et de travailler à côté. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, lui et moi, on s'est retrouvés. Moi, je travaillais, mais on se retrouvait sans grands objectifs spirituels. Et le Seigneur lui a parlé, il lui a dit, tu vas créer un site internet qui s'appelle enseigne-moi.com. Il y aura sur ce site une pluralité de ministères. Les différents dons que j'ai donnés à mon corps seront là. Il y aura des femmes, il y aura des hommes, il y aura différents mouvements qui seront représentés. Ça représentera donc le corps du Christ. Et avec un enseignement puissant, tout sur notre site est amené vers l'enseignement. C'est notre ministère. On n'est pas dans les petites rencontres par-ci par-là, mais on est vraiment dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ce que nous avons reçu. Et une vision ne commencera pas avec les autres. Une vision commencera avec toi. Tu dois commencer ta propre vision. Tu dois créer quelque chose, amener quelque chose dans cette vie. Il y a des talents qui se perdent en terre. Il y a des cimetières de visions qui n'ont jamais éclos. Parce que des gens ne se sont pas posé la question, mais quelle est la vision de Dieu pour ma vie ? L'âge ou l'endroit dans lequel tu te trouves, on était jeune. Moi, j'étais dans un coin qui était paumé, perdu. N'a rien à voir avec ta destinée divine. Regardez David le berger, il était là derrière son troupeau. Il était méprisé par sa famille. Quand le prophète est venu oindre un des fils comme roi, il n'était même pas là, on l'avait méprisé. Il était là derrière ses brebis. Mais vous pouvez être derrière vos brebis, derrière votre travail, ou je ne sais où. À partir du moment où vous avez soif de Seigneur, le Seigneur viendra là où vous êtes. Là où vous êtes, et il vous appellera à quelque chose de merveilleux. Regardez Moïse, il était là, autour de lui, il n'y avait rien du tout. Il était derrière ses brebis, et il n'y avait pas de centre commercial, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de gens autour de lui, il était seul. Il y avait le ciel, il y avait là un buisson à côté de lui. Juste un buisson. Et Dieu a utilisé ce buisson pour lui parler. Où que vous soyez, Dieu utilisera les choses qui sont autour de vous, même s'il n'y a rien pour vous parler. Dieu sait comment vous parler. Le problème, c'est qu'on n'a pas ce cœur pour savoir ce que Dieu veut nous dire, pour connaître la vision. Donc, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux, nous voulons voir ce à quoi tu nous as appelés. On n'a pas appris à notre naissance à porter une vision. Peut-être que la vision de vos parents, c'était simplement, effectivement, de vous donner à manger, de vous amener à l'école. Donc, on n'a pas été éduqués dans ça. Mais la Bible nous éduque dans le fait d'avoir une vision, de réussir, d'avoir des objectifs divins. Dieu vous parlera, vous entrerez dans ces choses et vous réussirez. On va avoir quelques clés pour ça. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, moi je connais ce footballeur professionnel, quand j'étais jeune, je jouais avec lui dans la même équipe de football. Si j'avais continué, j'aurais été comme lui, je serais devenu footballeur professionnel. Oui, mais toi tu n'as pas continué. Et lui il a continué, et il a réussi. Donc il y a des gens qui sont en train de regarder la réussite des autres tout le temps, et de se dire, moi j'aurais pu faire comme eux. Mais réussis quelque chose. C'est bien de montrer du doigt les autres. C'est bien de regarder les autres réussir. Mais qu'est-ce qu'il en est de ta vie? Qu'est-ce que tu produis? C'est pas seulement au pasteur de produire quelque chose de spirituel. Tu dois produire quelque chose en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu as une vision, tu regardes loin devant. Tu es un visionnaire. Tu regardes loin devant. Et quoi que ce soit qui vienne contre toi, tu penses toujours à la vision. Donc, ce jeune était un homme consacré. Il avait un cœur ouvert pour être utilisé par le Seigneur. Et dans cette vie, il y a deux sortes de visions. Il y a les visions humaines. Et il y a les visions divines. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont même parfois dans l'église, mais qui sont rétrogrades. Ils n'ont aucune vision. Le Seigneur les regarde et il les voit en train de tomber, petit à petit. Il y a cette parole dans la Bible qui nous parle du fils prodigue. Son père, qui est Dieu, était là en train de regarder. Constamment, Dieu cherche les chrétiens qui sont rétrogrades. Dieu cherche les chrétiens qui tombent, qui chutent. Dieu te cherche. Dieu te cherche, il regarde et il te cherche. Il te voit tomber, il crie, mais non, ne fais pas ça, ne prends pas cette décision-là, ne prends pas cette route-là. Le chemin vers la vie est étroit, étroit, il est étroit. Mais il amène à la vie abondante, à une vie abondante que Dieu nous a promis. Donc Dieu cherche les rétrogrades. Dieu a un cœur pour eux, Dieu veut les ramener dans la vision. Le chemin, il est le chemin. Il est la vie. Donc les chrétiens rétrogrades cherchent la vie quelque part, dans le sexe, dans les rencontres, dans la fête, dans l'alcool, dans l'argent. Alors que Jésus a dit qu'il était lui-même la vie. La vie se trouve donc en Jésus. Au début d'enseignement, donc on était une équipe, on était à peu près une trentaine de personnes, au bout de quelques semaines, qui nous ont rejoints. Et dans une vision, il y a des gens qui vous rejoindront, parce qu'ils vous aiment, ils veulent vous aider, mais ils ne sont pas forcément appelés avec vous. Il y a des gens qui vous quitteront. Donc on était 30 et au bout de quelques semaines, on est redescendu à 5 personnes, donc l'équipe de base. Parce qu'il y a des gens, bon, ils sont là, ils veulent vous aider, mais c'est pas forcément leur appel. Ou alors aussi, il y en a qui laissent tomber. Et au fur et à mesure d'une vision, beaucoup de gens vous quitteront. Mais quand vous avez la vision de Christ, quand vous l'avez eue à votre nouvelle naissance, certainement des gens vous ont quitté. Moi, des gens m'ont quitté. Et je pense que des gens vous ont quitté aussi. Et quand vous avez la vision, une vision divine, des gens vous quitteront et c'est normal. Et il faut continuer. Si vous avez une vision assez forte, vous ne serez pas balayé par les circonstances de votre vie. Quand Jésus était dans cette barque, il y avait les disciples, il y avait la tempête qui était là, les vagues, la puissance des vagues, et Jésus dormait. Et même Jésus, qui dormait, voyait plus grand que les disciples. Les disciples étaient là, ils connaissaient le terrain, mais il y avait là la tempête. Et on sait que parfois dans nos villes, il y a des tempêtes. Ils ont essayé de réveiller Jésus, ils l'ont réveillé, et ils ont crié, Seigneur, nous périssons. Parce qu'ils avaient les yeux sur aujourd'hui. La majorité des gens ont leurs yeux sur aujourd'hui. Ils ont un problème et c'est aujourd'hui. Ils ne voient pas plus tard. Le problème les bloque complètement. Mais Jésus, quand il s'est levé, il n'a même pas regardé la tempête. Je crois qu'il a ouvert les yeux et qu'il voyait au loin cette région où il y avait le possédé de Gadara. Il voyait cet homme. Il avait cette vision. Et parce qu'il avait cette vision si lointaine, si grande, si puissante, il a simplement dit à la tempête, tais-toi, arrête-toi. Les disciples, eux, avaient la vision de la tempête. Et dans nos vies, on a des choses qui viennent contre nos vies, mais parce qu'on a la vision de nos problèmes, on ne peut pas réussir. On ne voit pas la clé qui va nous faire sortir de là. On est aveugle. Et quand vous êtes aveugle, vous avez besoin des autres pour vous aider. Quand vous avez une vision, vous pouvez réussir. Donc Jésus est allé dans cette région, et là il a libéré cet homme. Et la parole de Dieu s'est répandue dans toute cette région. Parce que c'était un visionnaire. Hébreux 11 nous dit, on va lire au verset 24. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait, en effet, que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Il a préféré regarder à Christ. Il regardait beaucoup plus loin, vers ce Christ qui allait venir des centaines et des centaines d'années plus loin. Si vous avez une vision, il peut avoir un problème de voiture, un problème de facture, un problème de maison, un problème de loyer, un problème de travail, un problème de couple, vous ne serez pas terrassé. Si vous avez une vision assez forte, c'est vous qui allez terrasser les choses qui viennent contre vous. Il y a des gens, ils rentrent du travail, ils arrivent chez eux, ils voient là la petite facture de, je sais pas, 300 dollars à payer. Ils croient que c'est la catastrophe tout de suite. Parce qu'ils ont aucune vision. Quand vous n'avez pas de vision, quand votre vision le matin c'est juste de vous lever, d'aller au travail, d'acheter les petits légumes, de cuisiner, de regarder la télé et de vous coucher, effectivement, n'importe quel problème qui viendra, ça va vous terrasser parce que vous n'êtes pas un visionnaire. Mais quand vous avez une vision forte, puissante, pour votre église, pour votre vie personnelle, pour votre couple, vous réussirez. Les gens qui croient que tout est acquis ne réussissent pas, ils échouent toujours. Quand ils se marient, ils pensent que c'est la finalité. Voulez-vous que cette femme devienne votre épouse? Oui, je le veux. Dans les bons, dans les mauvais moments, oui, oui, je le veux. Alors la femme, elle s'imaginait dans une robe de mariée. Alors elle était là dans ses rêves. Et l'homme, lui, il imaginait la nuit de noces. Mais la nuit de noces passe, le voyage passe, et on se retrouve à la réalité. Donc la femme se retrouve là, elle a plus sa robe de mariée. C'est bizarre, moi je m'étais vu en robe de mariée. Oui, mais ça dure un instant. L'homme, il arrive, et c'est pas tous les jours la nuit de noces. Et donc, les problèmes commencent à arriver. Ils pensaient que c'était acquis. Beaucoup de gens se marient et ils pensent que c'est acquis. Ils pensent qu'ils ont déjà réussi, qu'ils sont arrivés au bout. Mais non, on doit toujours travailler. Travaillez dans votre couple, même quand vous avez 80 ans, 90 ans. Il y a un homme en Chine, il vient de passer un doctorat, je crois. Et il a réussi à 90 ans. Donc il n'est jamais trop tard. On doit toujours produire quelque chose, toujours travailler. Il y a une vraie bénédiction dans le travail, une vraie bénédiction qui est attachée au travail. La vision va te donner l'onction pour accomplir des choses que les autres ne peuvent pas réussir. La vision voit la finalité, voit beaucoup plus loin. Ça, c'est mon premier bureau. C'est là que j'ai commencé à nettoyer les cours bibliques, parce qu'on a un institut biblique que je vous présenterai tout à l'heure. La Bible dit « Ne méprisez pas les faibles commencements ». On va lire dans Matthieu 13. Il y a beaucoup de gens qui se méprisent. Matthieu 13. « N'écoutez pas ce que les autres disent de vous ». Mais regardez ce que le Seigneur dit de vous. Matthieu 13, 31. Jésus dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans un champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter, s'abriter sous ses branches. » Donc Jésus nous parle d'une semence. À tous, il nous a été donné une semence. Malheureusement, beaucoup de gens, ils voient la semence, ils commencent à avoir un peu faim et ils la mangent. Et si tu manges ta semence, tu ne pourras plus rien produire. Tu as reçu un peu d'amour et tu commences à manger ça. Tu n'as plus d'amour pour les autres. Tu n'arrives plus à aimer. Tu ne penses qu'à toi-même. Il faut arrêter d'être égoïste et commencer à chercher le bien des autres. Donc cette semence, tu peux la garder et ne pas la manger. C'est dur. Ça demande un coup. Et une vision donnera toujours un prix à payer qui est fort, très fort. Mais quand tu sèmes cette chose, elle est petite. Elle est petite. Et quels que soient les dons que tu as reçus, ils ne t'ont pas été donnés à maturité, ils t'ont été donnés petits. Mais ces choses que Dieu t'a données, Dieu peut faire de toi un vainqueur. Tu es un vainqueur. Si tu sèmes ces choses, tu auras une récolte qui sera abondante. Et tu auras de la provision, non plus pour ta simple bouche, mais pour ta famille, pour les gens qui t'entourent. Donc, les choses que Dieu a mis en vous, ces semences que Dieu a mis en vous, utilisez-les. Utilisez-les. Il y a des gens qui disent, oui, mais de toute façon, on peut toujours faire mieux. Ben oui. Ben, si on peut toujours faire mieux, faisons mieux. Faisons mieux. Si tu as fait une pancarte de ton église, et qu'au bout de 2 ans, on voit même plus ce qui est écrit dessus, On se demande si c'est une église ou un cimetière. Parce qu'il y a eu trop de lumière dessus. Eh bien, change-la. Combien je vois d'églises à l'intérieur, c'est horrible. À l'extérieur, c'est horrible. L'organisation, tout est nul. Alors que le monde, ce monde a un but. Quand ce monde se réunit, vous savez, on a beaucoup de réunions de prière, nous les chrétiens. On a beaucoup de réunions. On est les gens sur cette terre qui ont le plus de réunions. Les gens dans ce monde, quand ils ont une réunion, quand ils veulent construire une petite télécommande comme ça, ils se réunissent d'abord. Ils parlent de la chose. Ils réfléchissent. Nous, on prie. Eux, ils réfléchissent. La semaine d'après, ils se rencontrent à nouveau. Nous, on prie encore. Mais eux, ils ont un plan, déjà, qui a été dessiné. La semaine d'après, nous, on est encore en train de prier. Mais eux, ils pensent au problème du schéma qu'ils ont fait. Quelque temps après, on prie toujours, on jeûne parfois pour les plus spirituels, eux, ils ont la télécommande. Et quelques semaines après, après avoir enlevé les problèmes, regardez ce qui ne va pas, ils commercialisent cette télécommande. Cette télécommande n'a pas été faite par un chrétien. C'est presque sûr. Ce bâtiment n'appartient pas, je crois, à un chrétien. Donc, nous sommes logés par des païens. Moi-même, je loue une maison à une personne qui n'est pas chrétienne. Mais si c'est ma vision, eh bien, je resterai dedans jusqu'à ma mort. Et je dirai à mes enfants, à ma fille, désolé, mais j'ai rien pour toi. Mais si j'ai la vision de devenir propriétaire, je réussirai, je deviendrai propriétaire. Et donc, les gens dans ce monde ont des objectifs. Quand vous allez à Paris, vous voyez les gros bâtiments, IBM, Dell, IKEA, tout appartient à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait donné à l'origine des choses à l'homme. Tu domineras, voici, faisons l'homme à notre image. Et l'image de Dieu, ce n'est pas ce que tu vois actuellement. L'image de Dieu, ce n'est pas l'homme qui mange. L'image de Dieu, ce n'est pas l'homme qui travaille. L'image de Dieu, c'est ton être intérieur, l'homme spirituel, qui crée des choses, qui produit des choses, qui amène des choses divines par la foi et qui les amène à l'existence, au travers d'une vision. Et donc, les gens du monde sont en train actuellement de puiser de la terre les richesses qui appartiennent à Dieu et qui t'ont été données. Dieu a dit, vous dominerez sur toutes les choses, je vous donne tout. Il a dit ça à son peuple. Donc actuellement, à chaque fois que quelqu'un extrait de cette terre de l'or, du pétrole, de l'argent, il est en train de prendre sur ta propriété. C'est ta propriété. Nous sommes en train de nous faire voler les richesses par ce monde. Et les chrétiens, ils sont là, aucune vision. Ils pleurent, on ne peut pas acheter ça. Aucune vision. Ils parlent mal contre leur patron. C'est toujours la faute du patron. Ils ont aucun objectif. On doit avoir un objectif. Pourquoi les chrétiens ne se mettent pas ensemble? Pourquoi dans une même ville, il peut y avoir 10 électriciens et chacun travaille pour lui-même? Ils n'ont pas compris le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation concrète des visions que Dieu a données à son peuple. La manifestation des visions que Dieu t'a données. C'est ça, le royaume de Dieu. Tu veux que le royaume de Dieu avance? Avance dans ta vision. Crée des choses. Travaille quelque part. Tu dois travailler. David était devant Goliath, et David était méprisé donc, par sa famille. Et là, il a commencé à venir auprès de Goliath. Et là, il y avait, derrière Goliath, il y avait le peuple qui ne connaissait pas Dieu, le peuple qui était contre Dieu. Il y avait Goliath, ce géant. Et de son côté à lui, du côté de David, il y avait le peuple de Dieu, qui normalement connaissait Dieu. Et j'imagine que dans ce peuple, les gens commençaient à crier à David, « Mais tu es fou, tu vas mourir !» Il y avait des femmes peut-être qui étaient là en train de pleurer. En train de dire, ah mais il va se faire tuer, il va se faire tuer, je t'en prie, n'y va pas, tu vas te faire tuer. Il est dit que Saül et tout le peuple étaient dans une grande angoisse, une énorme crainte. Ils avaient peur, parce que ils regardaient au mur, ils regardaient à Goliath. Mais ce petit David regardait à l'Éternel. La Bible dit les yeux fixés sur Jésus. Il y a une compétition, et cette compétition, ce combat de la vie, on doit le vivre en ayant les yeux fixés sur Jésus. Les chrétiens, ils essaient de jeûner pendant 40 jours pour sortir de leurs problèmes, alors que tout est déjà écrit. J'ai rien contre le jeûne lorsqu'il est biblique. Mais la Bible dit, les yeux fixés sur Jésus. Tu es là en train de prier. Sors-moi de mon problème, sors-moi de ma montagne. Jésus dit, parle à cette montagne. Jésus n'a pas dit de parler de cette montagne, mais de parler à cette montagne. Jésus n'a pas dit, sur la barque, Dieu, tu vois, il y a cette tempête, je commence à bouger, j'ai un peu peur. Il fait froid, l'eau mouille. Non, il a parlé à la tempête. Lorsqu'il est passé devant ce figuier, il n'a pas parlé du figuier, il a parlé au figuier. Donc, la puissance de la confession, c'est ça, c'est parler à des événements, à des choses dans ta vie. Tu peux parler à des choses sur ta vie, tu peux proclamer les finances, tu peux proclamer et tu dois proclamer la réussite dans ta vie. Au travers de la confession, la parole, c'est puissant. Voilà pourquoi vous êtes en voiture, il y a quelqu'un qui vous insulte. Et cette parole, vous pouvez vous en rappeler une semaine après, deux semaines après, elle peut vous avoir blessé. Voilà pourquoi peut-être dans votre travail, on vous a dit une simple parole, quelques mots, et ça peut vous rester pendant des mois. Voilà pourquoi il y a des gens qui travaillent en équipe et pendant des années, ils se détestent les uns les autres, parce qu'au début, il y a une parole qui a été donnée. Et nous, chrétiens, on ne réalise pas qu'on a la parole de Dieu. Et qu'en disant une parole à quelqu'un, ça peut produire des choses pour la vie. Quand j'étais au collège, je disais à tout le monde que j'étais chrétien, je leur parlais de Dieu, j'étais pourtant peut-être le pire des chrétiens, mais quand même, je les faisais bien rire en tout cas. Et vous connaissez ce Facebook, cet espace communautaire qui vous permet de retrouver des amis, j'ai retrouvé pas mal d'amis. Et tous se rappellent que j'étais chrétien. Tous se rappellent ce que je leur ai dit de Dieu. Parce que les gens n'ont pas l'habitude. Et même s'ils avaient l'habitude, quand vous leur parlez de Dieu, vous leur donnez des paroles, vous semez quelque chose en eux. On n'a pas cette mentalité de semer dans la vie des autres. C'est tout le temps pour nous-mêmes. Tout le temps, Seigneur, aime-moi, donne-moi. Le Seigneur dit, aime, donne, et on te donnera. Donc on doit semer des paroles dans la vie des gens. Un prédicateur, actuellement, en moyenne, prêchera 2 heures par semaine. Mais n'importe quel chrétien peut prêcher 5 heures par semaine. Au travail, au téléphone, avec tes amis, au restaurant, dans ton couple. Tu peux constamment prêcher. Ma femme n'a pas encore prêché. Quoique le Seigneur m'a montré qu'elle prêchera, je le sais. Je l'ai vu déjà. Dieu vous montrera des choses, des images. Vous allez voir des images, des choses qui viennent comme ça. Il faut toujours y penser. Garder la vision. Elle n'a pas encore prêché, mais chaque semaine, elle sème des paroles dans la vie des gens. Elle est extraordinaire. Dommage que vous ne l'ayez pas vue. Elle est vraiment merveilleuse. Et vous êtes tous appelés à semer des paroles, à produire quelque chose dans la vie des gens. Les inconvertis, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ont soif de la parole de Dieu. Ils n'ont pas soif de connaître le sang de Jésus, le tabernacle, l'apocalypse, mais ils ont soif de la parole de vie. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu es, mais je sais que mon Dieu peut faire quelque chose pour toi d'extraordinaire. Quelque chose qui changera ta vie, j'en suis certain, je le sais. C'est ainsi. C'est l'alliance que j'ai contractée avec mon Dieu. Quand tu t'es marié, tu as contracté une alliance. Beaucoup l'oublient. Et quand tu as donné ta vie à Jésus, on chante, Seigneur, je te donne ma vie. Et tu l'as déjà donné, la vie, hein? Tu l'as déjà donné. C'est bien de rappeler à Dieu, oui, ce qu'on fait, mais Dieu n'oublie pas. Et donc, il faut marcher dans ce que nous sommes, réellement. On va avancer un peu. Donc, on est monté sur Paris, on était donc en Bretagne, et pour la vision, le Seigneur nous a dit, quitte. Vous allez monter sur Paris, vous allez commencer une petite équipe, et vous allez créer le site Enseigne-moi. Il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas bouger, vous savez. On pourrait leur demander de déménager. Pour eux, déménager, rien que le fait de déménager, ils pensent au déménagement, au carton, au travail que ça demande, alors ils ne déménagent jamais. Mais Dieu, dans une vision, te demandera toujours de déménager quelque part. Pas forcément de maison, mais de déménager quelque part. Tu dois aller dans des espaces nouveaux. Tu dois chercher. Des gens, leur vie, c'est le travail, la maison, l'église, le travail, la maison, l'église, le centre commercial, la coiffure, le travail, la maison, l'église. Ils connaissent les routes par cœur. Ils savent pas que à 50 mètres de chez eux, il y a quelqu'un qui meurt de faim. Il y a personne qui a besoin de bois ici. J'ai vu à 2 kilomètres, il y a quelqu'un qui donne du bois. Vous pouvez avoir autant de bois que vous voulez là-bas, il y en avait plein. Mais si vous n'allez pas vers là, vous allez aller au centre commercial et vous allez acheter votre bois, sans savoir qu'il y a quelqu'un qui donne du bois à 2 kilomètres de là. Donc, explorez de nouveaux horizons. Explorez de nouveaux horizons. Les gens, ils prient, Seigneur, envoie ma femme, envoie ma femme, envoie ma femme, envoie ma femme. Et si la femme te tombe du ciel, ça va te faire mal. Surtout qu'il y a des femmes, elles sont assez costauds, quoi. Donc explore, va. Le Seigneur a dit, allez, tu peux marcher, tu peux aller un peu à côté de ton siège, j'ai pas de problème. Tu peux te déplacer, tu es libre. Libre en Jésus. Ça fait du bien parfois d'aller se promener en famille. Tu es là, tu es libre. Tu es libre. Donc nous sommes libres en Jésus. Sur Paris, c'était assez difficile pour moi parce que toute ma jeunesse, je disais à tout le monde, jamais je n'irai habiter à Paris. Je détestais Paris. Je disais tout le temps, j'irai jamais à Paris. Pour moi, ma vie, c'était à Vannes, cette petite ville de 65 000 habitants. Parce que j'aimais cette ville. J'aimais trop cette ville. Je me voyais dans cette ville. Et je disais tout le temps, j'irai jamais à Paris. Donc j'ai dû quitter, bon, ma famille. Ça a été difficile aussi parce que j'aime ma famille et j'aimais passer du temps avec ma famille. Donc j'ai quitté ma famille, j'ai quitté, bon, mon travail. J'ai quitté l'endroit où je me trouvais pour aller dans cette vision. Donc vous aurez toujours, de toute façon, des choses à quitter. Ça pourra être dur. Ça pourrait être difficile, mais ça vaut toujours le coup, en tout cas. Dans ma ville, il y a une dame de un peu plus de 70 ans. Elle est née dans cette ville. Elle a fait l'école dans cette ville. Elle a été au collège dans cette ville. Elle a grandi dans cette ville. Elle a travaillé plus tard dans cette ville. Et elle mourra dans cette ville. Une petite ville de 10 000 habitants. elle ne laissera rien derrière elle, si ce n'est une maison. Mais qu'est-ce que c'est une maison? Mais ne travaillez pas toute la vie pour juste avoir une maison. Quand vous voyez une maison en construction, mais c'est rien. Un tas de briques, alors que la terre, toute la terre, appartient à Dieu. La terre t'appartient, elle t'a été donnée. Donc il y a beaucoup plus. Mais si c'est ta vision, tu récolteras selon ta vision. Jésus a dit, il en sera fait selon votre foi. Selon votre foi. Donc tu dois avoir de la foi quelque part. Tu n'auras pas de foi sans vision. Parce que tu dois croire en quelque chose. Mais la foi t'amènera dans des choses extraordinaires. Des choses dont tu n'as jamais pensé. Maxwell a dit, vous devrez toujours renoncer à quelque chose si vous voulez le meilleur. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit dans ce monde. Tout est payant. Seul le salut en Jésus-Christ est gratuit. Mais même le salut en Jésus-Christ, tu as payé quelque part. Tu as dû renoncer. Comment tu as payé Jésus en lui donnant ta vie misérable? Il l'a prise. Sors de cette vie, il l'a déjà prise. Et tu as dû accepter sa vie. Donc toujours, quelque part, tu dois renoncer. Tu dois devenir à une dépendance de Dieu. Pourquoi Dieu a dit à Abraham de quitter son pays? Pourquoi Dieu nous fait toujours quitter des choses? Parce que Dieu veut que nous soyons dépendants de lui. Des fois, il arrive des choses dans nos vies, on se demande pourquoi. Ce n'est pas Dieu qui les envoie. Mais on se demande pourquoi tout un tas de choses, la tempête qui vient dans nos vies, mais c'est un seul but. Que tu puisses devenir totalement dépendant de Dieu. Il faut que tes finances soient un peu balayées pour que tu comprennes que Dieu seul est ta source de finances. Il faut que tu sois un peu balayé quelque part, ballotté quelque part, pour que tu comprennes que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui doit vivre en toi. C'est Christ qui est dans la barque. Les disciples ont eu besoin de cette tempête, parce que cette tempête leur a montré que Jésus seul était la solution. Ils en ont eu besoin. Et on a besoin de vivre certains problèmes parfois. Joseph était dans la prison et Joseph n'était pas en train de prier et de se lamenter pour sortir de la prison. Mais Joseph a vu quelque chose de bon dans la prison. Tu dois voir quelque chose de bon dans l'étape dans laquelle tu te trouves. Toujours quelque chose de bon. Tu dois retirer quelque chose de bon. Tu dis peut-être, mais il n'y a rien de bon. Si, il y a quelque chose de bon. Même dans la prison, il y a quelque chose de bon. Paul était là dans la prison, enchaîné dans la boue. Certainement, ça sentait mauvais. Tout était là contraire contre lui. Il venait de se faire battre. Mais il avait une vision. Et il s'est réjoui. Il a trouvé quelque chose de bon dans cette prison. Il a trouvé le Saint-Esprit. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Les gens tristes n'ont pas de vision. Les gens tristes sont aveugles. Pourquoi? Parce que quand tu es triste, il peut y avoir des bonnes choses que tu aimais. Mais là, quand on te les propose, non, ça n'a plus de goût. Ta femme, c'était quelqu'un qui te procurait du plaisir. Mais là, tu es triste. Ça n'a plus de goût. On pouvait t'amener dans un restaurant, tu y rêvais. Mais là, tu es triste. Tu n'en veux plus. Non, j'ai pas faim. Une personne qui est triste, c'est une personne qui est aveugle. Tu ne pourras pas voir. La Bible dit, tu tâtonnais en plein midi. Et beaucoup de chrétiens sont là, tâtonnant en plein midi. Ils cherchent. Ils vagabondent. Sans vision. Mon peuple périt faute de connaissance, mais mon peuple périt faute de vision. La Bible dit que là où le peuple est sans vision, le peuple est sans frein, il va ici, il va là. Voilà pourquoi il y a des églises qui n'avancent pas, elles n'ont aucune vision. On doit produire quelque chose dans cette vie. Hébreux 11 nous dit qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, parce qu'il avait une vision. Certaines personnes se marient avec des inconvertis parce qu'elles n'ont pas la vision d'une famille chrétienne. Elles n'ont pas la vision de servir Dieu en couple. Donc c'est normal qu'elles se marient avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. On peut le comprendre. Par contre, si tu as été sauvé, et que ton conjoint n'est pas sauvé, Dieu le sauvera. Si tu as confiance en lui, si tu lui fais confiance. Une vision demande beaucoup de travail. Lui, ce Michael, il a travaillé des journées entières, des nuits entières. Là, il devait dormir au bureau parce qu'il travaillait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le travail, c'est quelque chose de béni. On parle de la dîme, mais il y a des gens qui pensent que juste en donnant un peu d'argent, ils vont être bénis. Non, tu dois donner, oui, ta dîme. Et aussi des offrandes, parce que la dîme c'est un minimum. Mais tu dois travailler. Dieu bénit la dîme et le travail. Proverbe nous dit que le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. Le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. Voilà pourquoi j'aime regarder des gens qui produisent des choses. Je trouve ça merveilleux. J'ai eu un exemple, pasteur Olivier Derain, le président de l'association. Quand j'étais au Burundi, à côté du Rwanda, pendant 3 semaines, je pensais que l'Afrique c'était cool. Ça peut être cool effectivement. Il m'a amené partout, tout le temps, faire ceci, faire cela, aller à la radio, aller à l'église, faire ceci. Tout le temps pris. Et quand j'avais un petit moment libre, bon, Jérémy, tu pourrais nettoyer des cours, tu pourrais corriger des examens. Et c'est des gens comme ça qui réussissent, qui produisent en tout cas quelque chose. Donc partout, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, on peut produire quelque chose. Partout, il y a de la richesse. Les gens disent, oui, mais ici, c'est la crise. Mais non, non, tu es dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de crise dans le royaume de Dieu, aucune crise. Par contre, des circonstances peuvent venir, parce que tu as ce corps qui t'a été donné. Mais à l'intérieur de toi, ton esprit a la puissance de te faire sortir de cela. Va te donner la vision, savoir comment tu peux trouver un nouveau travail. Comment tu peux réussir alors que les autres échouent. Comment tu peux t'autoproduire. On est trop habitués, nous, je ne sais pas comment c'est ici, mais en tout cas en France, les gens, c'est leur salaire et c'est tout. Donc tu as ton salaire une fois par mois et c'est tout. Les gens n'ont pas cette mentalité de créer quelque chose en plus. Non, développe des choses en plus. Développe. L'État contrôle tout ce qu'on fait. Il sait exactement combien nous gagnons. Ils savent actuellement que je suis ici puisque j'ai utilisé ma carte bleue dans un McDonald's. Donc ils savent que j'ai mangé au McDonald's. Ils savent exactement où je suis. Quand je suis passé à la frontière, ils savaient à l'heure même où je suis passé. Quand j'étais aux États-Unis, ils ont pris mon empreinte. Maintenant, ils ont mon empreinte. Pourtant, elle m'appartient, elle est à moi. Mais en tout cas, ils l'ont. Donc ils savent tout ce que vous faites. Ils savent tout ce que vous faites. La prière et le travail vont ensemble. Ce qu'on faisait pendant 6 mois, on se levait le matin, on travaillait, on se coupait une demi-heure pour manger le midi, on travaillait jusqu'à 19h et on allait se coucher. Pendant 6 mois, on a fait ça. Du lundi au vendredi soir et parfois même le samedi. On était 5 à peu près et on travaillait comme ça. Mais ça a produit quelque chose. Et gloire à Dieu, aujourd'hui on commence à porter un peu de fruits. Et c'est bon. Mais il y a des gens, ils se cachent derrière la prière. Ils disent à Dieu, oui, c'est bien, j'ai vraiment aimé ce chant, soit le centre de ma vie, soit ma vision. Mais Dieu te dit, mais c'est à toi de faire de moi le centre. Jésus a dit, je suis la vie, mais c'est à toi de faire de Jésus ta vie. Donc, la prière, parfois les gens se cachent derrière la prière pour ne pas agir, pour ne pas travailler. Ils demandent constamment des choses à Dieu et oublient de travailler. Mais vision et action vont ensemble. Vision et action vont toujours ensemble. Tu ne pourras rien produire si tu n'agis pas. Donc ça va toujours ensemble. La prière par-dessus notre travail permet à notre travail d'être multiplié pendant notre sommeil. Des choses surnaturelles qui se produisent alors que nous prions. Mais au départ, on doit travailler. Nous devons être des gens productifs. Nous devons être les gens qui travaillent, pas forcément le plus, mais en tout cas des gens actifs. Par contre, les fruits, ce sera plus que les autres. Parce qu'on a un Dieu surnaturel qui fait des choses surnaturelles dans notre travail. Quel que soit ton travail, que tu sois électricien, que tu sois pasteur, que tu sois je ne sais quel travail, quoi faire. Il doit avoir une vision derrière ton travail. Derrière tout travail, il doit avoir une vision. Comme tu as une vision dans ton propre travail, tu dois avoir aussi une vision divine. Faire quelque chose au niveau de l'évangélisation. Faire quelque chose dans ta ville. Fais quelque chose. Regarde. Et sois ému de compassion envers ceux qui t'entourent. Un aveugle ne peut pas être en action. On doit le diriger. Il te faut une vision. Beaucoup de chrétiens mettent la responsabilité sur Dieu. Mais faire vivre une vision, ça vous demandera du travail. Beaucoup de travail. Dites, comment puis-je avancer? Comment je peux sortir de cette impasse? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Pour faire avancer ton royaume? On crie, Seigneur, je te donne toute la gloire. Mais la Bible dit que Dieu est glorifié par nos fruits. Donc si tu as passé toute la semaine sans fruits et que tu arrives le dimanche à l'église, quelle est la gloire que tu vas donner à Dieu? Il y a un fruit et ce fruit glorifie Dieu. La vraie adoration, c'est porter des fruits. Entre autres, amener des âmes à Jésus. Entre autres. Produire des finances peut être aussi un fruit qui rend gloire à Dieu. Ramener ce qui a été volé dans le royaume de Dieu ramènera la gloire à Dieu. Une vision vous coûtera tout, le prix à payer est élevé. Quelqu'un a dit, les plans de Dieu coûtent tout de suite. Oui, ça nous coûte tout de suite, mais ça paye plus tard. Mais nos propres plans payent tout de suite, mais nous coûtent plus tard. Nos propres plans, ça paye, effectivement, on est content un moment, mais ça va payer. Ça va te coûter plus tard. Ça va te coûter beaucoup. De choisir tes propres plans au lieu des plans de Dieu. Partout dans la Bible, Dieu met la responsabilité sur nous. La prière ne fait pas tout. Ce n'est pas une petite corbeille magique où tu lances tous tes sujets de prière. Tu sais même plus pourquoi tu as prié après. On doit se donner des objectifs. Je vous ai dit, le monde, quand ils se réunissent pour fabriquer une petite télécommande comme ça, ils ont un objectif. Et nous, on prie parfois dans nos réunions de prière, aucun objectif. On va prier pour le monde entier. Non. Ne prie pas pour le monde entier. Le monde entier a prié quand on prie pour le repas. Certains disent oui, Seigneur bénis tous les enfants qui n'ont pas à manger. Et pourtant, il y a toujours des enfants qui n'ont pas à manger. Donc apparemment, je sais pas, peut-être Dieu est le coupable. Non, Dieu n'est pas le coupable, mais c'est pas sa responsabilité. Tu pries pour des choses alors que toi-même tu peux faire avancer les choses. Tu pries pour que Dieu sauve des âmes et tu vois constamment des âmes autour de toi sans jamais leur annoncer l'évangile. Tu pries pour que Dieu bénisse ton église, mais jamais tu veux aider l'église. Tu te plains de ce qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas dans l'église, mais tu ne fais rien dans l'église. Parfois, tu es là dans l'église, tu vois un mouchoir, un papier par terre, un chewing-gum, et tu es là, et ça m'est arrivé. Tu passes à côté, tu fais, bon, qu'est-ce que je fais? Et parfois, tu passes à côté, tu ne le ramasses pas. Mais pourtant, chez toi, si c'était chez toi, un chewing-gum chez toi, tu vas le ramasser, non, et le mettre à la poubelle. Donc, on accepte des choses dans l'église qu'on n'accepte pas chez nous. Chez nous, on veut que tout soit comme ça. Les maris, c'est comme ça. Il y a des choses, il y a des règles. Les femmes aussi, il faut que ce soit comme ça, et pas comme ça. Et dans l'église, bon, de toute façon, c'est le pasteur, hein. On laisse le pasteur faire ce qu'il veut, et nous, on est les brebis, de toute façon. On dit bêlé, c'est ça, les brebis? Et belle? Bêlé, si vous voulez. Vous produisez quelque chose. Donc, ne mettez pas la responsabilité sur les autres. La responsabilité est sur nous. Et quel que soit votre âge, on doit entrer dans une certaine maturité. On doit grandir, progresser spirituellement. 2 Timothée 20, 2 verset 20. 2 Timothée 2 verset 20. J'espère que vous comprenez mon français, parce que moi j'ai parfois du mal à comprendre votre québécois. Seigneur, ouvre-nous les yeux. 2 Timothée 2, 20. La Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Alors certains prient, bon Seigneur, tu m'as choisi pour être un vase de terre. Ainsi je suis, ainsi je serai, ainsi je mourrai. Mais oublie de lire le verset d'après. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Si quelqu'un se purifie, il sera. Donc, si tu es un vase de terre, c'est parce que tu l'as voulu. La responsabilité est sur toi. Tu peux être dans ce monde un vase extraordinaire. Pourquoi les gens ne se donnent pas parfois à Jésus? Parce que tu es là en train de leur parler de Jésus, mais il dit, mais c'est pour devenir comme toi, mais non, je préfère rester comme je suis. Tu es là, tu es triste, tu es malade, tout va mal. Tu as des problèmes par-dessus la tête. Et lui, ça va, tu vois qu'il progresse, tu vois qu'il prospère. Non, tu dois être ce vase excellent. Et même si tu ne l'es pas actuellement, ça peut changer. Ça peut changer, tout est possible à celui qui croit. Ne dites jamais, je ne peux pas. Parce qu'à chaque fois que vous dites des paroles qui ne sont pas bibliques, vous amenez le monde non biblique à produire des choses dans vos vies. Et après, vous vous retrouvez avec plein de pourriture dans votre vie. Vous demandant pourquoi. Pourquoi Dieu? Pourquoi? Mais si vous laissez des détritus dans votre église, attention que le diable, dans quelques années, ne viendra pas mettre des poubelles, toutes les poubelles de votre ville dans votre maison. Ce que l'on fait aujourd'hui a un impact sur le futur. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble. Tu peux être un vase d'un usage noble. Ça parle de consécration, de prix à payer. Tu dois être consacré. Tout donner à Jésus. Être entier. Moi, j'ai pris la responsabilité de donner toute ma vie à Dieu. Mon argent, toute ma famille, quand ma fille est née, quand on est allé à la maison, je l'ai donnée à Dieu. Elle ne m'appartient plus. Elle est à Dieu. Quand je suis entré dans ma maison, quand j'entre dans une maison, je donne cette maison à Dieu. Ta voiture appartient à Dieu. Prends-en soin. Prends soin de ta vie, parce qu'elle appartient à Dieu. Prends soin des gens qui ne connaissent pas Dieu, parce que c'est Dieu qui les a créés. Et Dieu a un plan pour leur vie. Tu ne sais pas si demain ce sera ton pasteur, si demain ce sera ton directeur. Donc prends soin de lui. Aide-le à grandir. La Bible nous dit, fortifie-toi. Prends courage. N'abandonne pas. Fuis, recherche, repousse, efforce-toi, travaille, souviens-toi, veille, retiens, redresse, prêche, insiste, reprends, convainc. La responsabilité est mise sur qui? Sur Dieu? Non, sur toi. Dieu, Jésus, sur la croix, a dit tout est accompli. Tout est accompli. accompli. Il a fait sa part. Arrêtons de lui demander de faire des choses. D'abord, agissons. Et oui, il fera des choses. Mais d'abord, la responsabilité est sur toi, elle est sur moi. J'encourage les églises à visiter des églises qui fonctionnent, qui marchent. Parfois, il y a des églises, vous pouvez passer 20 ans dans cette église, vous pouvez vous-même avoir mis les briques et construit cette église, peint les murs. 20 ans après, vous êtes toujours là. Vous ne savez même pas qu'il y a un pasteur à 10 km de là qui porte du fruit. Il est sauvé comme vous. J'étais dans une église comme ça, sans savoir qu'il y avait d'autres mouvements, qu'il y avait d'autres ministères, qu'il y avait peut-être un message un peu plus libérateur. On est entre nos quatre murs et on ne voit pas ce qui se fait ailleurs. Donc ayons les yeux sur l'extérieur, sur les gens qui réussissent. Non pas pour photocopier, mais parce qu'il y a des modèles. Si vous êtes patron d'entreprise, regardez des patrons qui fonctionnent. Regardez comment ils font. Mais nous, non, nous, on veut spiritualiser les choses. Non, Dieu doit tout me dire. Non, marchons dans les choses qui ont réussi. En tant que prédicateur, tu dois marcher dans les choses qui ont réussi. Quand j'ai commencé à prêcher, c'était ma Bible et c'est tout. Pour moi, prêcher deux fois le même message, c'était presque pas biblique. Commencer à prendre une phrase d'un prédicateur, c'était anti-biblique. Mais j'ai compris que non, tu dois marcher sur les traces, sur le travail que les gens ont fait. Si c'était à moi de découvrir à nouveau le baptême du Saint-Esprit, mais j'aurais mis peut-être des mois, des années. Non, j'ai marché dans ce qui a été fait. Le salut en Jésus-Christ. Je vais pas refaire le débat. Non, je marche dans ce qui a été fait. Donc regarde un peu à l'extérieur, parce qu'il y a des bonnes choses. Arrête de critiquer. Ne critiquons pas. Mais regardons les bonnes choses. Prenons ce qui est bon. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Certains ne veulent pas changer, et ils ne veulent pas non plus que les autres changent. Ils sont des murs dans la vie de certaines personnes, mais nous devons constamment changer. Pourquoi les gens cessent de se développer la plupart du temps? C'est parce qu'ils sont entourés de gens qui sont eux-mêmes ennuyés, ennuyeux, qui n'ont aucune vision. Si tu es entouré de gens qui n'ont pas de vision, effectivement, tu n'auras pas de vision, tu ne produiras rien. Donc entoure-toi de bonnes personnes, des gens qui ont des objectifs, qui parlent des choses, qui voient des choses. Parfois, ils réussiront pas, parfois, ils échoueront, mais c'est pas grave, gloire à Dieu. Ça donne une bonne expérience pour la vie. C'est de bonnes choses. Va, si tu n'arrives pas à obtenir, à créer ta propre vision, parfois Dieu t'appellera à aller dans la vision de quelqu'un d'autre. Mais même dans cette vision, tu auras ta propre vision, tes propres choses à faire. Une personne, normalement, ne peut pas s'occuper toute seule d'un enfant. Bibliquement, il doit avoir deux personnes. S'il arrive un drame, gloire à Dieu, Dieu nous donne la possibilité de nous occuper d'un enfant. Mais au départ, il doit avoir deux personnes. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Apprenez donc à semer chez les autres, à aider les autres. On va avancer un peu. Donc ça, au bout de 6 mois de travail à temps plein, on a créé le site enseignement.com, donc où il y avait pas mal de ministères. Bon, au départ, bon, les gens voyaient deux petits jeunes là, qui commençaient. Bon, certains nous ont méprisés, mais c'est pas grave, c'est normal. Certains n'ont pas cru à la vision, d'autres nous ont rejoints, et gloire à Dieu, je les bénis. Et donc on a créé ce site, au bout de 6 mois de travail dans le local que vous avez vu, que nous avions refait. Et quand vous surfez, par exemple, sur un site internet, vous voyez pas les milliers de lignes de code qu'il y a derrière. Vous, vous cliquez sur le bouton « Voir la vidéo ». Et là, il y a la vidéo qui apparaît. Mais vous ne réalisez pas qu'il y a quelqu'un. Pour que vous puissiez voir cette vidéo, ce petit bouton-là, quand vous cliquez dessus, quelqu'un a créé des centaines de lignes de code pour que vous puissiez, lorsque vous cliquez, voir apparaître la vidéo. Quand vous regardez un tapis, dessus, c'est beau, c'est très beau. Et quand vous le retournez, vous voyez tous les fils, tout le parcours qui a été fait pour voir la belle surface. Et parfois, dans une vie, c'est ça, on voit ce qui frappe les yeux. On voit les choses comme ça, on voit les gens, mais on ne réalise pas tout ce qu'il y a derrière. On voit le pasteur et on se dit, oh, c'est bon, il a un salaire, ça va, hein. On va pas le bénir encore plus. Non, bénissez les gens qui produisent des choses dans votre vie. Parce que Dieu regarde ça. Dieu regarde vraiment comment vous honorez les gens qui vous entourent. Dieu regarde comment vous honorez les gens qui portent du fruit dans votre vie. Sachez les honorer. Sachez les honorer. Honorez-les. Honorez votre conjoint. Vous savez que c'est très spirituel d'offrir un bouquet de fleurs à sa femme. C'est très spirituel. C'est très spirituel d'écrire un poème à la personne qu'on aime. Moi, j'aime écrire. Parfois, j'écris à un ami ou à un autre quelque chose, une pensée me vient. Mais nous, on n'est pas attentifs aux pensées que Dieu met dans nos vies. On demande la terre entière, on prie pour le monde entier. Et parfois, il met juste une petite pensée comme ça. Mais si tu n'as pas un cœur pour lui, tu passeras à côté. Pourtant, Dieu t'avait dit d'aider ce frère. Dieu t'avait dit de donner une petite parole encourageante à cette sœur. 3 mois plus tard, tu apprends, peut-être, cet homme s'est suicidé. Et c'est le regret. Pourtant, Dieu avait mis quelque chose en toi. Donc, parfois, Dieu, il va pas venir et t'apparaître. Sinon, tu vas mourir. Peut-être, parfois, Jésus peut apparaître à certaines personnes, mais marchons par la foi. Parce que si tu vois Jésus, tu auras beaucoup plus de travail, beaucoup plus de choses à accomplir. Donc, marchons par la foi. Hébreux 11, 24. Le verset que j'ai lu tout à l'heure nous parle de ces mauvais traitements. Moïse a préféré les mauvais traitements de l'Égypte plutôt que de jouir de la vie. Il ne priait pas « délivre-moi, délivre-moi », mais il endurait, ayant une vision. Pendant cette vision, pour avoir ce petit cycle, quand on était là dans cette maison, nous, ça faisait 1 an qu'on était mariés avec ma femme, tous les autres étaient célibataires, et il y avait ma femme et il y avait 6 hommes. Et quand vous êtes 1 an marié dans une ville que vous connaissez pas, d'ailleurs, il n'y a rien autour, pendant 1 an, c'est difficile. Bien des fois, des moments difficiles. Quand vous n'avez aucun ami, que vous ne réussissez pas forcément à vous intégrer à votre église locale, nous, on était attachés à notre ancienne église. On n'avait pas compris qu'il fallait la quitter complètement. On allait dans une nouvelle église, celle où je suis actuellement. Mais dans notre tête, dans notre cœur, on était encore attachés à l'ancienne église. Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être sur 2 terrains à la fois. Non. Vous devez être dans un troupeau, quelque part. Vous ne pouvez pas aller d'un troupeau, d'un pâturage, à un autre pâturage, parce qu'au milieu, il y a le loup. Et il viendra vous enlever des bénédictions. La parole de Dieu est tellement simple, tellement imagée. Jésus nous parle d'un pâturage, mais il y a quoi de plus simple? Il nous parle du fils prodigue, il va là, il finit à manger la nourriture des cochons, mais c'est simple, non? Pourtant, on veut choisir nos propres choix, alors que tout est déjà écrit. Tout est déjà écrit. Et ma femme a été courageuse pendant ces moments-là. Et honorez les gens qui ont été courageux. Rappelez-vous, lorsque peut-être une difficulté dans votre couple, rappelez-vous des bons moments. Des bons moments. Des choses que cette personne a fait pour vous. Parfois, les vrais hommes de Dieu sont nos femmes. C'est vrai, vous voyez, le pasteur, c'est lui qui prêche. Parfois, c'est un homme. Mais le vrai homme de Dieu, parfois, c'est pas lui. C'est la femme que Dieu a mise auprès de lui. J'étais dans une réunion cette semaine, l'homme de Dieu disait que dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à la femme, il lui a parlé de cette semence, qu'une semence allait sortir d'elle, et que ça allait écraser la tête du diable. L'homme a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Donc il y avait déjà une division dans le couple. Et Dieu dit à la femme, il ne parle pas à l'homme, il dit à la femme de ta semence. Mais la femme n'a pas de semence. Celui qui a la semence, c'est l'homme. Mais là, il y avait une division. Donc l'homme est en train de parler de la femme, c'est la femme que tu as mise. Et la femme, peut-être elle est en train de dire, mais oui, c'est moi qui ai la semence. C'est moi qui ai la semence. Mais non, c'est l'homme qui avait la semence. Et donc il y a des gens autour de vous qui ont la semence. Mais vous, vous êtes en train de les mépriser. Et pourtant, ils ont la semence qui va vous faire sortir de vos difficultés et de vos problèmes. Vous, vous ne réalisez pas, parce que vous ne savez pas qu'il y a en eux. Vous ne voyez que le mal, peut-être parfois. Mais pourtant, ils ont la clé. La clé est en eux. La clé qui vous fera sortir de cette impasse se trouve en eux. Donc ne méprisons jamais personne. Vous voyez qui c'est Lot? Cet homme qui ne devait pas être là. Et un Lot dans votre vie, ça peut être une personne. Ça peut être des choses dans votre vie. Vous devez vous en débarrasser. Et rapidement. Parce qu'un Lot vous fera parfois perdre votre vision. Un Lot vous fera perdre vos motivations. Un Lot vous fera perdre votre joie. Lot vous fera regarder en arrière. Vous devez renoncer à des choses. Parfois, il y a des gens qui s'unissent à certaines personnes, et Dieu veut casser tout ça. Moi-même, j'étais, avant de rencontrer ma femme, avec une fille, j'étais rétrograde. Et lorsque Dieu m'a appelé pour le ministère, moi je croyais que ça allait être demain, mais ça a mis pas mal d'années, et d'ailleurs, je ne suis pas encore dans le ministère à temps plein. Je suis simplement dans mon appel et je me prépare. Et Dieu m'a dit de casser cette relation. Et moi, je me disais, oui, mais ça va laisser un mauvais témoignage à la famille, etc. Mais non. Ne te préoccupe pas, obéis simplement. Obéis simplement. Parfois, tu dois casser des choses et simplement obéir. Et tu n'imagines pas la bénédiction qu'il y a derrière. La femme que j'ai trouvée, mais c'est incomparable. Incomparable. Si j'étais resté dans cette situation-là, ça aurait été l'échec. Terrible. Mais Dieu m'a donné la femme selon mon cœur. 2 Corinthiens 11 nous dit, je sais que je dois prêcher Jésus, hein, je ne prêche pas ma femme. Hein. 2 Corinthiens 11, 23. Certaines personnes se trouvent des excuses et disent « Oui, moi j'ai essayé, Oui, vous savez, la vie, c'est difficile. J'ai eu ceci, j'ai eu cela dans ma vie. Il y a eu telle personne qui m'a dit ça, il y a eu telle personne qui m'a quitté, j'ai vécu telle chose personnellement, on m'a trompé, j'étais brisé. Il est dit, au verset 23 de Corinthiens 11, 23, la deuxième partie du verset, « Sont-ils serviteurs de Christ ?» Je parle en termes extravagants. « Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, par les coups, bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères. » Si vous avez vécu plus que Paul, vous pouvez peut-être commencer à trouver une excuse. Mais lui-même n'a trouvé aucune excuse pour accomplir le but que Dieu avait pour lui. Il a dit à la fin, j'ai parcouru le bon combat. Oui, j'ai achevé ma course, j'aurai la couronne. Certains, ils auront une petite couronne comme ça. Parce qu'au moindre obstacle, ils regardaient l'obstacle, l'obstacle, l'obstacle. Oh, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Non, dans la prison, regarde. Regarde à Christ. Regarde à Christ. Garde la vision. Garde la vision. Parce qu'il y a quelque chose de bon dans cette vision. Parfois, c'est un problème de péché dans la vie des gens. Le péché nous éloigne de notre vision. Le péché nous empêche de porter des fruits. On va retourner dans Hébreu. La Bible dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. » À un autre endroit, il nous fait parler de ce peuple d'Israël et il nous a dit qu'il faut que ce soit un exemple pour nous. Prenez comme modèle ce peuple d'Israël et ceux qui ne sont pas entrés dans le pays promis. Pourquoi ils ne sont pas entrés dans le pays promis? Pour plusieurs choses. Il y avait les murmures. Ne murmurez jamais. Il y avait des problèmes de convoitise. Ne convoitez jamais. Il y avait toutes sortes de problèmes et il y avait du péché. Manquez le but. Ne manquez pas le but. Ne restez pas dans un péché. Vous pensez que c'est bon pour vous, mais c'est mauvais. C'est mauvais pour vous. Ne vous prenez pas au sérieux. Combien de gens sont orgueilleux? Combien de ministères se prennent au sérieux? Un jour, j'étais dans une église et il y avait des ministères qui étaient là, des pasteurs. Je commençais à dire bonjour Alain, bonjour, bonjour. Et j'arrive devant un homme, il était habillé tout en blanc. Il était assez grand et il m'a regardé comme ça, avec un tel mépris. Et il n'a pas voulu me serrer la main. Il y a des gens, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes. Parce que Dieu met tellement de choses en nous. Des choses extraordinaires. Et à la fin, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui avons créé ces choses. Donc ne vous prenez pas au sérieux. Moi, je me prends pas au sérieux. J'aime bien plaisanter. Si vous alliez sur mon Facebook, vous trouveriez des photos étonnantes. Je suis un homme qui aime plaisanter. Qui aime rire. Ne vous prenez pas au sérieux. Ne vous prenez pas au sérieux. Parce que c'est pas bon pour vous.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.